Moi, dans ma vie, ça a commencé avec les arbres de Noël où on faisait nos décorations. Mon père faisait des petits œufs en plâtre, puis on arrivait, on peinturait ça. Pour nous, c'était tout brun, tout le temps, là. On était jeunes. Après ça, mes grands-parents ont fait découvrir plus l'accordéon, comme mon grand-père, il en fait beaucoup, puis on faisait ça dans les parties, là. Et ma grand-mère et mon grand-père aussi, ils allaient beaucoup voir de l'opéra. Quand j'étais petite, j'allais voir une pièce d'opéra. C'était vraiment intéressant. Je comprenais pas grand-chose, mais je trouvais ça intéressant. Après ça, j'ai grandi, puis il y a toujours eu du dessin. Après, il y a eu des classes d'art. Après, on arrive au secondaire, puis là, on arrive avec des projets que t'es vraiment plus dedans que des petits dessins sur une feuille. Puis après, on arrive ici au projet, puis on fait de l'art!
Bien, en fait, j'ai été en contact avec l'art dès mon enfance parce que ma mère était pianiste. Donc, c'est un petit secret bien gardé, hein. Quand ta mère est artiste, c'était pas, disons, un métier traditionnel. Fait que ma mère, évidemment, m'a bercée avec les plus grandes mélodies. Déjà là, c'était mon premier contact. Puis, elle s'est toujours intéressée à ce qu'on s'investisse, tu sais, culturellement. J'avais des amis qui étaient plutôt sportifs. Moi, je l'ai été aussi, mais elle était toujours à la recherche là, du petit plus qui faisait en sorte qu'on allait avoir le goût de s'investir dans la culture. Puis, je dirais que j'ai été piquée par l'improvisation, moi, d'abord. Donc, qui m'a aidée à développer ma créativité. Et tout mon secondaire, j'ai été la capitaine d'équipe d'impro. Puis, ça s'est toujours tissé comme ça. Et au cégep, j'ai envoyé ma candidature pour aller étudier en théâtre à Saint-Hyacinthe et j'avais été acceptée. Puis ma mère a refusé que. En fait, tu sais, oui. Donc, elle a refusé que j'en fasse une carrière. Fait que je suis allée en enseignement puis j'ai enseigné le théâtre là, au secondaire puis le français pendant 20 ans. Puis par le choix d'enseigner aussi, j'ai été directement en contact avec la culture, là, puis ça a toujours continué. Puis dans le cœur de mes étudiants aussi, là, je me suis inspirée de ce qu'ils faisaient pour continuer à vivre cette passion-là.
Oui, salut! Je m'appelle Laurence Boulay et je suis enseignante en arts visuels au Cégep de Sept-Îles. Kwenoutum, c'est un projet qui mène à la rencontre et au partage pour mettre en lumière les arts comme prétexte à la réconciliation. J'ai aujourd'hui le privilège d'être accompagnée de deux invités qui en auront long à dire, j'en suis certaine, sur l'art. D'abord, je vous présente Marie-Josée Lévesque, conseillère pédagogique au Cégep de Sept-Îles et cofondatrice du projet Kwenoutum. Salut Marie-Jo!
Bonjour Laurence!
Je vous présente aussi Camille Lavoie-Saint-Gelais, élève de secondaire 5 de l'Institut d'enseignement de Sept-Îles. Bienvenue Camille!
Bonjour! Je suis en maths forte puis en sciences fortes et je suis motivée. J'aime beaucoup les animaux, je vis près de la mer, j'aime la Côte-Nord, je suis née ici, à Sept-Îles. C'est une place de l'art en même temps, on en fait beaucoup dans les écoles, c'est tout le temps mis partout, on voit ça sur les murs et tout ça. Ça fait que chaque jour de ma vie, à chaque fois que je vais à l'école, je vois beaucoup d'art. Mais quand on arrive au centre d'achat ou dans des endroits plus communautaires, oui, il y aura de l'art, mais je trouve qu'il n'y aura pas assez ou pas tant que ça pour savoir des artistes spécifiques. C'est rare qu'on sache 10 noms d'artistes différents, là. On sait Picasso, puis après on est genre, il y a quelqu'un qui a fait une peinture à un moment donné. Ah, j'en connais un. On sait pas qui l'a fait, puis en plus, c'est, il n'a en quelque sorte pas assez. Je trouve qu'ils pourraient en avoir plus, mais ils sont souvent plus dans des lieux précis. Comme les écoles, c'est beaucoup valorisé. Ça fait qu'il y a de l'art, de la culture partout, puis on en parle, on fait... Il y a des semaines de culture, puis les profs sont investis. Mais quand tu vas dans le milieu du travail, souvent, on en voit moins. On voit des petits arts, l'art moderne sur un mur, puis après ça, c'est ça.
Vous écoutez le balado Quénoutum, un projet de rassemblement par les arts. Épisode 3, se rassembler autour de l'art.
Bien, je suis d'accord avec Camille. Puis j'ajouterais que c'est souvent au détriment des arts qu'on a valorisé, par exemple, l'esprit scientifique au lieu de l'esprit créatif. Alors que, en fait, pour être un grand scientifique, évidemment, il faut que tu aies créé quelque chose. Donc, je pense que c'est le problème de notre société d'essayer de compartimenter au lieu de voir ça comme un ensemble. Parce que c'est de cette façon-là qu'on peut ajouter des couleurs. Tu sais, je veux dire, c'est tout à fait scientifique, mais en même temps, c'est tout à fait créatif de voir à quel point on peut ajouter des couleurs à l'arc-en-ciel. Là, c'est infini. C'est ma vision. Je travaille directement avec les enseignants et j'ai la chance de les aider à réfléchir à de nouvelles idées, à des stratégies pédagogiques pour mieux... je dis pour mieux, ils font déjà... tout ce qu'ils peuvent, là, mais pour, accentuer les stratégies pédagogiques dans les cours eux-mêmes. Je vois aussi au respect des devis ministériels, donc dans le cadre, par exemple, des plans de cours et dans toutes les idées qui sont à développer ici au collège, là, qui seront profitables pour la réussite des étudiants. Donc, en fait, c'est un emploi de rêve.
On voit ça sur le bord de la centrale, un peu tes petits arbres, là.
Ouais,
c'est ça, c'est des autres. Il y en a sur le bord des plages, il y en a vraiment, quand vous allez savoir c'est quoi, vous allez le reconnaître. Donc, on l'appelle aussi l'aulne blanc, c'est un arbuste qui pousse beaucoup dans la région, qui peut atteindre 12 mètres de haut. C'est un des premiers arbres à fleurir au printemps. Les nombreux chatons mâles libèrent une très grande quantité de pollen, visible sous la forme de petits nuages jaunes lorsqu'on secoue les branches. Les chatons mâles et femelles portés par le même arbuste. Il y en a des tout petits, des ronds comme sur l'image. Puis, à l'hiver, il y en a des longs et minces. Puis, on les récolte, c'est le poivre des dunes. Que vous connaissez ça, le poivre des dunes? Ça, là, c'est... en fait, ce sont des chatons de l'aulne qu'on peut récolter comme du poivre, le gratter un petit peu, s'en servir comme épice. Donc, voilà, on peut tourner la page. On s'en va à la page 4. Là, je vous fais un petit topo de l'aulne rugueux, tout ça, parce que je suis très sensible à la nature, à l'environnement, puis je trouve ça important d'en parler, d'introduire ça un peu à travers les ateliers d'art, parce que c'est important de prendre soin de notre planète. Donc, on parle de l'aulne, qui est très important dans la nature, OK? Pour plusieurs raisons. Premièrement, il abonde sur le bord des cours d'eau, les marais, les lacs, les tourbières. Il y a beaucoup de tourbières ici. Tourbières qu'on peut appeler aussi marais. OK? Donc, il y en a beaucoup dans ces endroits-là. Puis, c'est pas pour rien. C'est qu'en fait, ça crée des espaces de rétention d'eau. Tu sais, souvent, là, je sais pas si vous aviez remarqué qu'il y a de plus en plus de glissements de terrain. Peut-être pas à cette scène, mais à travers la planète, surtout dans les endroits où il y a beaucoup de pluie, dans où il y a des forêts tropicales, ben, il y a une raison à ça, c'est que plus on coupe les arbres, ils servent à plusieurs choses, dont, entre autres, retenir l'espace, retenir le sol par les racines. Si on coupe toutes les arbres, ben là, le terrain, c'est beaucoup plus facile quand il y a des grosses pluies de faire des glissements, puis après ça, aller enfouir des villages. Okay? Donc, l'aulne, ben, il sert, entre autres, à retenir l'eau autour des cours d'eau.
Nous, on a l'érosion des berges. Une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup d'érosion, oui. Il n'y a pas d'arbres pour protéger les...
C'est ça, exactement. C'est pour ça qu'on dit souvent, comme Amoisy, par exemple, là, on dit qu'il ne faut pas marcher... faut marcher dans les sentiers, en fait. OK? Il y a aussi la cause des oiseaux qui nichent là, mais une autre raison, c'est pour éviter l'érosion des berges. Usage de l'aulne. À l'époque, les Autochtones préparaient une décoction à base d'écorce d'aulne pour guérir le rhumatisme. Comme celle des saules, son écorce contient de la salicine, un produit semblable à l'aspirine. Donc l'aspirine naturelle. Son écorce externe servait aussi de cataplasme pour arrêter l'écoulement du sang d'une plaie, aider à la cicatrisation ou réduire l'enflure. Son écorce, mêlée à d'autres substances, sert à préparer tout un éventail de couleurs. Les Iroquois coloraient en rouge les cuillères et autres articles de bois avec une décoration.
Mais moi, personnellement, je trouve que c'est le bonheur. Tu sais, je le partageais ce matin avec les étudiants, par exemple, avec les étudiants de Coué. Donc, il y a deux semaines, quand ils sont venus nous visiter, puis que tu leur as proposé ce qui leur semblait être un jeu au départ, mais ils ont continué de se réaliser là-dedans, puis ils sont allés jusqu'au bout, puis ils ont réussi à nous faire voir la réalisation finale en employant, tu sais, la méthodologie que tu leur avais donnée, mais aussi en ajoutant leur créativité à travers ça. Puis il y avait une espèce d'effervescence. Fait que c'est devenu comme la frénésie, là. Tout le monde en riait de ce que l'autre avait produit, mais finalement, c'était de toute beauté. Fait que on savait plus pourquoi on riait, on savait plus trop pourquoi on avait fait ça, mais c'était une réalisation en soi. Fait que je pense que c'est ces moments-là qu'il faut valoriser, puis pour lesquels il faut prendre le temps de s'arrêter puis de le vivre. Fait que moi, à chaque fois que les étudiants de Coué entrent au collège, ben c'est sûr que ça m'envahit, là. Moi, je suis émue depuis le jour 1 quand Mme Linda puis M. Mathieu ont dit oui, on embarque, là, dans le projet, parce qu'au départ, quand Laurence avait soumis toutes ses bonnes idées, on ne savait pas que les arts allaient pouvoir dominer à ce point-là. Fait que c'est ça. C'est ça, les arts. C'est la magie, c'est l'ensemble de tout ce que tu fais chaque jour.
Une contagion du bonheur, finalement. Mais je trouve aussi que la partie que moi j'aime le plus dans les arts, c'est quand il y a une contagion de la tristesse. Je suis quelqu'un de contradictoire. J'aime le bonheur, mais j'aime aussi quand les autres peuvent ressentir la tristesse de l'auteur ou la tristesse des mots d'une chanson. Quand il y a une personne avec l'image, puis je regarde souvent des chansons en regardant des images, et là, la chanson a un rapport avec l'image, puis là, tu arrives à l'image et tu te dis, je comprends tellement ce que ça ressent, puis je veux me battre pour ça. Je veux me battre pour que sa chanson devienne heureuse. Je veux me battre pour qu'une œuvre devienne heureuse. Mais je veux aussi qu'elle soit triste pour ressentir tout le moment présent. C'est une façon d'être triste et heureux à la fois. C'est comme un enterrement d'une de mes amies qui est morte il y a un bout. Il y avait une chanson qui a joué. À chaque fois que la chanson rejoue, quand je l'écoute au quotidien, je pense à cette amie et je suis triste, mais je suis en même temps contente de l'entendre.
C'est très intéressant ce que tu dis. C'est comme si l'art était un vaisseau pour les émotions. Un espèce de moyen de transport pour véhiculer nos émotions. Marie-Josée, tu es entre autres conseillère pédagogique pour le département d'art visuel du cégep de Sept-Îles. Est-ce que ta proximité presque quotidienne avec l'art se transpose dans ton travail auprès des autres disciplines ou des autres départements?
Absolument. Vous êtes contagieux. c'est évident. Au quotidien, en fait, je passe d'un programme à l'autre. Par exemple, bon, tout à l'heure, j'étais en soins infirmiers. Ce matin, j'étais avec vous en art visuel. Je veux dire, d'un programme à l'autre. Comment je vois ça, cette transposition-là que vous me permettez d'exploiter? C'est plutôt de réussir avec les autres programmes d'amener autant de créativité dans leur truc, tu sais. D'agir comme un passeur culturel. C'est un peu ça aussi que je fais à travers les programmes. Fait que ce soit passeur culturel ou d'une inspiration que vous me permettez de développer avec les autres programmes, c'est toujours enrichissant, c'est évident. C'est les étudiants qui le vivent à la fin parce que c'est les enseignants qui vont le faire vivre à leurs étudiants, là. Mm-hmm. Moi, je suis qu'un seul petit élément dans l'équation, là.
Bien, tu transmets des choses aux enseignants qui transmettent à leur tour quelque chose aux étudiants.
Oui, j'ai fait quelques activités en dehors où on faisait de l'art, de la sculpture, mais c'était surtout de petites activités qu'on faisait en famille avec d'autres personnes, puis c'était pour s'amuser. J'ai jamais plongé vraiment dans l'art comme avec Quentin, là. Parce que l'art, au début, c'était moins intéressant pour moi quand j'étais au primaire. Après, j'étais arrivée au secondaire, j'ai fait « Hey, il y a quelque chose à faire avec ça! » Puis après, il y a eu la musique. Là, tu découvres de nouvelles musiques que c'est pas tes parents qui ont choisi. T'arrives. Hey, il y a du métallique. Il y a quelque chose de métallique. Là, ma mère arrive. Oh, c'est quoi ça? Mon enfant est devenu étrange.
Vous l'avez dit, l'art permet le rassemblement, comme c'est le cas par exemple avec le projet Queen Outam. L'art permet aussi le partage des cultures. Mais moi, j'aimerais ça savoir, les filles, selon vous, est-ce que c'est important de les partager justement nos diverses cultures?
Pour de vrai, moi, je trouve ça important de partager les cultures. Pas juste parce que j'aime les cultures, apprendre des nouvelles coutumes et cultures de tous les autres pays, religions, personnes, mais aussi parce que c'est un moyen d'ouverture. Quand on ne sait pas quelque chose, quand on ne connaît pas quelque chose, on peut avoir peur de quelque chose. Quand on a peur de quelque chose, ça peut entraîner de la haine, de l'inconfort. Pourtant, on est tous pareils. Puis finalement, on va dire on est tous différents. Puis c'est là qu'arrivent des trucs regrettables. Pourtant, on pourrait tellement... Des fois, je vois ma culture, puis je vois mon église, puis je suis... Je vais changer de culture pour aller autochtone avec des danses bizarres. Des danses que je connais pas, non. Je vais mettre des plumes. Mais...
T'es curieuse.
C'est ça. Mais je me dis, en même temps, en voyant l'histoire, je me dis, ils auraient tellement pu apprendre des autres, puis ils ont bloqué ces portes-là. Ils ont toutes fermées, ils ont pas pu aller plus loin. C'est comme si on bloquait le progrès. Une progression individuelle.
Je vais dans le même sens que Camille. En fait, pour être moteur de notre culture, il faut d'abord la connaître. Il faut d'abord qu'elle nous habite aussi. Donc, c'est peut-être ça aussi, le défi. Donc, que cette culture-là nous habite pour être capable de se réaliser. Je pense qu'on est, sur la même longueur d'onde par rapport à ça. Puis, tant et aussi longtemps qu'on n'essaiera pas de traverser cette méconnaissance-là, mais c'est là que c'est source de conflit. Et je pense qu'avec Queen Outam aussi, la rencontre de l'autre, c'est ce qui nous permet de valoriser la culture. Donc, d'être capable de s'exprimer, de travailler en groupe, de ne pas nécessairement avoir le même point de vue, mais de ne pas chercher à avoir raison. Donc, d'écouter l'autre. Et je pense qu'on y arrive aussi.
J'aimerais ça vous parler d'un ouvrage d'Hugo Latulippe. Je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'intitule « Pour nous libérer les rivières » paru chez Atelier 10 en 2019. C'est en fait un plaidoyer en faveur de l'art dans nos vies. Je vous le recommande fortement. Hugo Latulippe, c'est un cinéaste et producteur. Il travaille dans le milieu du cinéma documentaire depuis plus de 25 ans. Dans son ouvrage, il écrit que l'art est une tentative d'égaler la beauté du monde. Parce que la beauté nous émeut, la beauté nous égaye, émerveille et peut même donner espoir en un monde meilleur. Pensez-y bien, j'aimerais ça que vous réfléchissiez à un moment de vos vies où, que ce soit une œuvre musicale, cinématographique ou une œuvre d'art qui vous a coupé le souffle, qui vous a donné des frissons ou fait pleurer, bref, qui a suscité chez vous de très fortes émotions.
Pour de vrai, moi je dirais, il y en a trop pour en nommer juste une. Mais moi, je dis, c'est surtout la mer. On est devant la plage où j'habite et à chaque fois que je vais prendre une marche avec mon chien, des fois, je me mets à chanter. Des fois, c'est nuageux. Puis c'est tellement beau. Des fois, le soleil se lève. Et là, il y a mon petit chien qui est... Il a peur des vagues. Il s'en va renifler tous les morceaux de bois qu'il retrouve. Puis elle est toute contente d'aller dehors. Puis à chaque fois, je suis presque en train de pleurer, en train de marcher, là. Puis là, je me mets à chanter, puis là, il y a le vent. La beauté du monde est une œuvre. Puis l'art, ça sert pas juste à mettre la beauté du monde. Je vais être contre lui. Ça sert pas juste à mettre la beauté du monde. La beauté du monde, c'est aussi la laideur. On trouve de la beauté dans la mort, puis le désespoir. Puis des fois, hein, on voit des œuvres comme... Une œuvre que j'avais vue d'un bébé qui allait d'une femme morte qui allait de son bébé pendant la peste. C'était tellement beau, selon moi, mais c'était tellement triste aussi. C'était pas la beauté du monde, c'était super beau, Mais en même temps, c'est la laideur. Mais la laideur a une certaine beauté. La beauté est différente pour tous. Moi, je trouve la mer, le ciel et tout ça, c'est une beauté que on ressent tout ensemble. Puis quand je la vois dans une peinture, je me dis, c'est beau, mais on n'égalera jamais la vraie mer.
C'est le contexte qui rend ça renversant, en fait. Mais je peux y aller d'une anecdote. L'été de mes 15 ans, alors que Jean Leloup s'en venait à cette île, les bébés, mes idoles québécois à ce moment-là, ma mère avait décidé qu'on allait partir en Europe pour l'été. Donc là, je laissais mes amis. Là, vous imaginez le contexte. Là. T'as 15 ans, tu veux pas aller avec ta mère en Europe visiter des châteaux. Mais aujourd'hui, ce que je donnerais pour y retourner. Puis, en fait, sur le chemin, on allait visiter le château du Neuschwanstein. Sur le chemin, j'ai tombé endormie. Puis quand je me suis ouvert les yeux, c'est là que j'ai réalisé toute la beauté du monde. Donc, la chance que j'avais d'être vraiment ailleurs, d'être en Europe avec ma mère, avec un sac à dos, puis d'avoir la chance de voir cette réalisation gigantesque, de sentir le vent, tout à l'heure, tu disais sur le bord de la mer. Donc, de sentir le vent, puis de voir ma mère émue devant le château qu'elle avait si longuement observé dans ses magazines. Fait que quand on me demande la beauté du monde est où, je vous dirais qu'elle est en Europe quelque part. C'est ça ma réponse.
De façon générale, moi, le médium qui me touche le plus, c'est la musique aussi. La musique me fait pleurer tellement souvent. Je trouve ça vraiment touchant. Mais je me souviendrai toujours de la première fois où j'ai été émerveillée devant une œuvre d'art. En fait, je visitais le Musée des beaux-arts de Québec avec ma mère. Puis je suis tombée vraiment face à face. T'sais, je regardais pas où j'allais, puis je me suis levée les yeux, puis je suis tombée face à face avec un grand portrait d'un artiste espagnol. Puis j'étais tellement impressionnée que j'en suis venue les larmes aux yeux vraiment là, comme instantanément. T'sais, c'était la première fois que ça m'arrivait. Puis là, je suis restée un peu surprise. T'sais, c'était un peu étonnant quand ça t'arrive. Voilà. Donc, je vous dis merci, Camille Lavoie-Saint-Gelais, élève de l'Institut d'enseignement de Sept-Îles, et Marie-Josée Lévesque, conseillère pédagogique au cégep de Sept-Îles, de vous être prêtée à cette discussion sur l'importance de l'art qui, je l'espère, aura fait naître d'autres discussions et réflexions sur le sujet. Merci.
Merci.
Allô, ma fille? Tu m'as montré tes belles couleurs puis les mouvements qui te bercent depuis belle lurette. Moi, je t'ai fait voir mes danses et mes cris. On peut dire qu'on se connaît mieux, déjà. Ça sert à ça, l'art. Moi, je te découvre à travers ce que tu crées, ce que tu as envie de me dire, ce qui sort de tes tripes. Tes émotions et tes tristesses aussi font des dessins sur mes jours. On a beau travailler toute la journée, mais quand on ne peut pas danser dans la rue puis rire à plein poumon, ça sert à quoi? On n'est pas des robots. On vit, on respire, on a peur, on désire. On n'est pas des machines bien huilées qui répètent tout le temps la même affaire, jour après jour. Faut s'arrêter de temps en temps puis écouter nos cœurs qui battent la mesure de toutes nos musiques. Je veux aller à ta rencontre par les routes que tu as dessinées. Je veux marcher dans les mêmes pas que tes pas de danse. J'aimerais chanter les mots qui t'habitent et être le récepteur des mouvances de ton cœur. Artiste moi, artistons-nous sur la grande toile des jours. Il y a l'ordinaire du quotidien, puis il y a l'extra du temps passé à nous exprimer en couleur, en son et en rapprochement de chez vous à chez nous. Ben, c'est ça. À la prochaine!